en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. L'émission Un habit vert vous propose aujourd'hui de découvrir un homme qui fut célébré en 1998 à l'occasion du bicentenaire de l'expédition française en Égypte, mais aussi en 2004, année au cours de laquelle la ville de Lille fut désignée comme capitale européenne de la culture. À cette occasion, la commune de Boulogne-sur-Mer, dans le Nord-Pas-de-Calais, rendit un vibrant hommage à un de ses enfants chéris, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, élu en 1878 à l'unanimité. J'ai nommé Auguste Mariette. Une grande exposition fut organisée au château-musée de la ville, une exposition dont vous pouvez avoir plus qu'un aperçu à travers le livre « Des dieux, des tombeaux, un savant » paru chez Somogy, édition d'art. Des dieux et des tombeaux, car Mariette tourna son existence vers cette Égypte multiséculaire, celle de l'ancien empire, notamment par la découverte du Sérapéum et de la nécropole royale, mais aussi un savant, car Mariette fut aussi l'inventeur de l'archéologie moderne, l'archéologie militante, en montrant à ses contemporains que la science, certes, peut s'acquérir dans les livres, mais qu'elle est aussi le fruit d'un travail sur le terrain. Comme nous le verrons au péril de sa vie, Mariette travailla des années de ses mains dans un désert hostile, souvent imprévisible et sous un soleil de plomb, mu par une seule passion, celle de la découverte. Pilleur d'épaves dans les premiers temps, il devient, dès son deuxième voyage en Égypte, conservateur au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il obtient le titre de directeur des antiquités égyptiennes, puis celui de fondateur du musée du Caire. Claudine Letourneur, disons bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste, reporter et disons-le historienne, passionné par l'Égypte, vous aussi. Vous avez consacré un de vos ouvrages à cette personnalité attachante, Mariette Pacha ou le rêve égyptien, un livre paru en 1999 chez Plon. Cet ouvrage a été préfacé par le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions des belles-lettres, Jean Leclan, et vous avez d'ailleurs reçu un prix de cette académie. Alors comment, Claudine Letourneur, disons, comment votre intérêt s'est-il porté vers cette personnalité? Pourquoi Mariette?
D'abord, je voudrais dire que Mariette a été le deuxième personnage que j'ai vraiment découvert, c'est-à-dire je l'ai découvert grâce à Jean-Philippe Loher, qui a travaillé à Saqqara, avec qui j'ai fait 3 livres. Et Jean-Philippe Loher m'a tellement parlé de Mariette. On était en plus sur le site où Mariette a trouvé le Sérapéum. Et Monsieur Loher, à cette époque-là, m'a vraiment fait découvrir qui était Mariette, qui était un peu tombée quand même dans l'oubli, même enfin surtout en France et en Égypte évidemment aussi. Et Monsieur Loher m'a vraiment donné envie d'apprendre à découvrir Mariette, son travail, sa vie. Et donc j'ai été passionnée par Monsieur Loher, qui est mort maintenant il y a 5 ans. Et cette passion m'a conduite vers Mariette, avec qui j'ai vécu aussi une rencontre extraordinaire. J'avais pris un immense plaisir à travailler sur ce personnage, à faire des recherches et à écrire ce livre.
Alors, en exergue de votre livre, il y a 3 citations. Je vais m'arrêter à une de ces citations. Je reviendrai sur les 2 autres à la fin de notre émission. Il y a cette citation de Michelet, « Il n'y a de talent que l'impossible ». Mariette Pacha fut-il un homme de l'impossible ?
Il fut un homme de tous les possibles en même temps. Et c'est vrai que l'entreprise dans laquelle il s'est lancé, alors qu'au départ il n'était pas égyptologue, est une entreprise titanesque. Et vouloir sauver le patrimoine égyptien, surtout en 1850, alors qu'on détruisait tout, était une entreprise de pure folie. On y risquait sa vie aussi. Et dans cette citation, moi, j'ai voulu, en fait, aller à l'encontre de ce qu'a été la vie de Mariette. C'est pas l'impossible, il a réussi quelque chose de qui paraissait absolument impossible. Mais évidemment, il n'a pas tout sauvé, mais il a jeté les bases de choses comme le musée et le service des antiquités qui existent toujours aujourd'hui. Et sans lui, Aujourd'hui, je pense qu'il ne resterait pas grand-chose des monuments d'Égypte.
Il faut dire qu'il est enterré là-bas.
Oui.
Il est enterré près du musée du Caire.
Dans le jardin du musée.
Oui. Alors, bon, nous allons revenir bien évidemment sur sa personnalité, cette volonté extraordinaire, cette passion. Et toute passion a une origine. D'où vient cet amour de l'Égypte chez Mariette? Comment, au XIXe siècle, un jeune boulonnais, puisqu'il vit à Boulogne-sur-Mer, un jeune boulonnais de 20 ans se passionne pour une civilisation si éloignée?
Alors, il y a eu deux événements dans la vie de Mariette à ce moment-là. Donc, il était jeune, il se destinait à être instituteur. Et c'était déjà quelqu'un qui s'intéressait à énormément de choses. Il écrivait des pièces de théâtre, enfin, il avait beaucoup d'activités. Et il y a eu deux événements. Il y a eu l'arrivée au musée de Boulogne d'un sarcophage qui venait de la collection de Vivant Denon, Vivant Denon ayant été participé à l'expédition Bonaparte. Et donc, ce sarcophage a évidemment attiré énormément de monde parce que c'était un objet complètement insolite à l'époque. Donc Mariette, évidemment, est allée le voir et est tombée en arrêt devant ce sarcophage recouvert de hiéroglyphes.
Et, qui existe toujours, d'ailleurs.
Qui est toujours au musée de Boulogne, d'ailleurs, oui. Et donc, avec la connivence du gardien, il a commencé à recopier les textes hiéroglyphiques qui étaient inscrits sur le sarcophage. Et ça a été un point de départ. Il a voulu se lancer dans l'apprentissage des hiéroglyphes. Et puis la deuxième chose, assez fondamentale aussi, le père de Mariette vivait dans la mairie de Boulogne, et où il y avait un immense grenier où Mariette avait fait un peu son univers. Et un jour, le père reçoit un énorme paquet venant d'un cousin lointain qui venait de mourir et qu'on n'avait jamais rencontré et qu'on ne connaissait pas, et qui s'appelait Nestor Loth. Et le père demande à Mariette de mettre de l'ordre, d'ouvrir ses caisses et de mettre un peu d'ordre dans ces documents qui viennent d'arriver. Et on ne sait pas très bien pourquoi, ils sont arrivés jusque-là. Donc Mariette, à contre-cœur, s'y met et puis commence à ouvrir les caisses et à découvrir des carnets et des dessins et un carnet de voyage qui parle de l'Égypte. Et là, il est complètement subjugué, en fait. Il commence à lire les textes de Nestor Loth, qui est donc son lointain cousin, qui faisait partie de l'expédition Champollion, quand Champollion, en 1828, est venu en Égypte avec un certain nombre de savants et de dessinateurs. Donc Nestor Loth faisait partie des dessinateurs. Et donc, c'est tout ce voyage en Égypte qui est là, sous les yeux d'Auguste Mariette. Et en fait, la coïncidence entre ce cousin qui arrive, qu'une personne ne connaît et dont arrivent les archives, plus le sarcophage qui a commencé à complètement exciter la curiosité de Mariette pour ce qui est de l'Égypte. Donc ces deux événements ont eu un rôle détonateur complet. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus pensé qu'à une seule chose. C'était aller en Égypte, pouvoir étudier ce pays.
Alors ce n'est pas un rat de bibliothèque, hein. Il a une personnalité très dynamique.
Ah oui, bien sûr, c'est quelqu'un... En fait, il le dira et il le reconnaîtra. C'est pas un homme de cabinet, c'est pas un homme de bureau, c'est pas un homme de bibliothèque, c'est un homme de terrain. Alors, il se forme comme il peut. Quand il est à Boulogne, il essaye de récupérer des livres de la grammaire de Champollion et tout ça, mais pour commencer à étudier les hiéroglyphes, il y arrivera tant bien que mal. Hein. C'est quand même quelque chose qu'il a appris tout seul et avec beaucoup de difficultés, mais par manque de documents. Mais en tout cas, il s'est formé sur le tas et il s'est battu d'une façon incroyable parce qu'il s'est dit qu'à Boulogne, il pourrait... L'univers était trop étroit, qu'il fallait donc qu'il passe par Paris.
Voilà.
Par
à un moment, hein. Finalement, il a tout épuisé ce qui concernait l'Égypte à Boulogne-sur-Mer.
Absolument.
Et
oui.
Il a besoin d'aller finalement plus haut. Et plus haut, c'est le Louvre.
Ah, c'est le Louvre.
Et ce qui est étonnant, à vous lire, on remarque que sa passion, tout en étant à Boulogne, sa passion est remarquée. C'est-à-dire qu'il commence à écrire à Boulogne sur l'Égypte, et on le remarque à Paris pour cet amour de l'Égypte.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il envoie Il envoie ses textes, enfin c'est les petites études qu'il fait, il les envoie à Charles le Normand, qui était lui aussi faisait partie de l'expédition de Champollion en 1828. Et donc il a et ces gens au Louvre commencent à s'intéresser à ce garçon qui de Boulogne-sur-Mer envoie des études qui tiennent quand même assez bien la route. Et donc on le fait venir à Paris. In fine, on lui propose de venir à Paris. Et c'est vrai que il a mis tellement en fait d'énergie dans ce désir d'aller jusqu'au bout de son rêve, hein, qu'il arrive vraiment à capter l'attention des grands savants du Louvre.
Alors, d'un point de vue peut-être plus personnel, sa vie moins professionnelle mais plus privée, entre-temps il se marie. Sa famille aura une importance particulière dans sa vie. Il monte à Paris avec son épouse et ses enfants ?
Non, pas tout de suite en fait. D'abord, il y va seul. Il commence, il fait une étude sur une scène de Toutmosis IV. Et donc, c'est un premier pas. Donc, il n'embarque pas tout de suite sa famille. Alors, il est marié pour revenir à effectivement sa famille qui a toujours eu une importance fondamentale dans sa vie. C'était sa bouée de sauvetage dans les moments difficiles. Donc, il épouse Éléonore qui a 17 ans, qui est vraiment la femme et l'amour de sa, qui sera toujours l'amour, le grand amour de sa vie, avec qui il aura presque une dizaine d'enfants. Donc, c'est pour lui, c'est son équilibre. Cette femme et ses enfants sont un équilibre. Donc, il vient d'abord, sans eux, et ensuite il revient quand on lui donne un tout petit poste au Louvre. Là, il vient s'installer avec femme et enfants dans des conditions extrêmement difficiles, hein, parce qu'il a, il gagne très peu d'argent. Mais pour lui, l'important, c'est d'être au Louvre, c'est d'être avec les savants, c'est d'avoir accès aux objets et aux livres dont il a cruellement manqué à Boulogne-sur-Mer.
Alors, c'est l'Académie des inscriptions des belles-lettres qui va lui donner l'opportunité de se rendre en Égypte, car cette opportunité tombe. Dans quel cadre comment se place cette mission ?
Alors, on ne l'envoie pas en Égypte pour faire des fouilles. Hein. C'était pas. Mais effectivement, Charles le Normand, qui le soutenait beaucoup, savait très bien que Mariette ne rêvait que d'une chose, c'était d'aller là-bas. Et donc, le Normand s'est dit, en fait, une opportunité d'aller rechercher, en fait, des manuscrits coptes pour les bibliothèques. Donc, on prend ce prétexte-là pour envoyer. Enfin, prétexte. On envoie Mariette en disant, bon, pour l'instant, ça vous fera déjà prendre pied en Égypte, on verra plus tard. Mais déjà, c'était une manière de lui permettre d'assouvir son rêve, c'est-à-dire d'aller là-bas et d'aller voir un peu à quoi ressemblait ce pays. Donc, il part là-bas en 1850.
Alors, là aussi, ce qui est étonnant, c'est comme ce boulonnais qui monte sur Paris, à qui l'on fait confiance. Eh bien, encore une fois, à nouveau, la confiance des autorités, on donne sa chance à un jeune qui pourtant n'a ni diplôme, ni titre, et qui n'a pas 30 ans.
Absolument. Oui, c'était extraordinaire. Mais enfin, peut-être qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile. Je ne sais pas si ça arriverait encore aujourd'hui, où il faut être bardé de diplômes, où en fait, il y a moins d'espace aussi. Hein. Alors que là, c'était vraiment le début de l'égyptologie. Donc, on avait besoin de savants, on avait besoin d'archéologues, on avait besoin de gens qui soient capables.
Il y a une véritable émulation au XIXe siècle sur ces découvertes.
Ah oui, bah oui, bien sûr, après l'expédition de Bonaparte, au retour avec ce livre donc a été fait par les savants, la description de l'Égypte, qui est un ouvrage absolument colossal et fantastique. Et puis les objets qui ont commencé à arriver, donc et qui ont été exposés au Louvre, et puis après comme à Boulogne, donc des objets qui arrivent comme ça au compte-gouttes, mais qui excitent complètement la curiosité des gens par rapport à ce pays que personne ne connaît. Et c'est vrai que le 19e siècle était est le moment où puis il y a eu Champollion, puis il y a eu la découverte de la langue hiéroglyphique. Tout ça a créé en France, en tout cas, à l'étranger aussi, en Angleterre.
Alors justement,
en Italie,
il y a une concurrence.
Il y a une énorme concurrence avec les Allemands, enfin les Prussiens. Mais déjà, en France, il y a un intérêt qui explose quoi, pour l'Égypte. Ouais.
Alors, il arrive le 2 octobre 1850, donc il est parti de Marseille, il arrive ce 2 octobre, il a 29 ans, l'Égypte, enfin, il débarque à Alexandrie. Quelles sont ses réactions?
Mais il est assez évidemment assez surpris parce que bon comme on peut l'imaginer quand on débarque en Orient et qu'on a vécu qu'à Boulogne-sur-Mer, il y a un fossé quoi. Mais il est assez surpris parce qu'il voit pas Alexandrie ne correspond pas exactement au rêve d'Égypte. Enfin, et d'ailleurs, avant lui, il y a eu la même chose avec Champollion. Quand ils sont arrivés à Alexandrie, ils ont été assez dépités quoi, devant cette ville. Mais en tout cas, il est très heureux. Et puis, il se promène, il est invité. Et en fait, il commence, en étant invité chez un consul, à découvrir ce qui va l'amener ensuite à Saqqara, c'est-à-dire les premiers sphinx qu'il voit à l'entrée de la maison d'un consul qui le reçoit à dîner.
Il arrive, c'est un autre point d'étonnement, c'est qu'il arrive à rencontrer à chaque fois les bonnes personnes.
Oui. Ah oui, ça c'est aussi une de ces.
Il a une belle étoile.
Oui, tout à fait. Ah oui, on peut le dire, quand même, malgré tous les malheurs qu'il a eus par la suite.
Je reçois Claudine Le Tourneur, disons, et nous évoquons ce grand personnage que fut Mariette Pacha. Claudine Le Tourneur, disons, vous êtes l'auteur du livre Mariette Pacha ou Le rêve égyptien paru chez Plon. Nous nous retrouvons dans un instant. Biver est aujourd'hui consacré à Mariette Pacha. Mariette Pacha, grande égyptologue. Je reçois Claudine Le Tourneur, disons, auteur du livre Mariette Pacha ou Le rêve égyptien paru chez Plon. Alors nous avons évoqué ses premières années. Il arrive enfin en Égypte en 1850. Il rencontre les bonnes personnes et il a une mission, vous le disiez avant la pause, il y a une mission bien particulière. Mais cette mission finalement, elle n'aboutira jamais parce qu'il n'obtiendra jamais ce qu'il souhaite et il va se retourner de fait vers sa passion, la recherche, la recherche de monuments et d'objets de l'Égypte antique.
Donc effectivement, sa mission n'aboutit pas, c'est-à-dire d'aller à la recherche, d'acheter des manuscrits coptes, parce que les moines dans les monastères égyptiens donc ferment leurs portes maintenant, parce qu'en fait ils ont été un peu pillés par les Anglais.
Expliquez même qu'une bibliothèque des moines mûre une bibliothèque entière pour éviter qu'on leur vole ces manuscrits.
Oui, tout à fait, parce qu'ils ont été échaudés. Et donc Mariette arrive à un très mauvais moment. Et là, toutes les portes se ferment dès qu'il prétend vouloir acheter des manuscrits. Donc, il finit par se dire qu'il n'y a pas tellement d'autre choix que de rentrer en France ou alors, et c'est là aussi qu'intervient une part de, comment dire, de chance peut-être dans son existence, c'est que c'est déjà ces sphinx qu'il a vus à Alexandrie qui ont éveillé un peu sa curiosité et il en voit aussi au Caire. Ce sont toujours les mêmes sphinx. Et là, il commence à se demander d'où viennent ces sphinx. Et il va trouver le marchand d'antiquité qui lui explique que c'est à Saqqara, en fait, sur le site de Saqqara. Et lui, qui a lu Strabon, sait que Saqqara, donc c'est à côté de Memphis était la première capitale de l'Égypte ancienne, et Saqqara était la nécropole de Memphis, et que donc à Memphis, il y avait un temple de Sérapis, et que d'après la description de Strabon, ce temple était ouvert par un dromos, qui est une énorme allée bordée de sphinx.
Donc, dès lors, il n'a plus qu'un seul objectif, c'est de trouver ce dromos, cette allée.
Voilà, alors,
et
comme
cette
il sait
nécropole.
Aussi que le tombeau de Sérapis, le Sérapéum, était souterrain, donc il se dit on peut détruire des temples et des tombes, mais une tombe souterraine, elle doit toujours exister. Donc, il faut que j'aille sur place et que j'essaye de trouver le Sérapéum. Et il est persuadé que cette tombe est toujours là.
Quelle est la situation des fouilles à l'époque? On a le droit de fouiller facilement? Il faut une autorisation?
Non, il faut un firmant, donc ce qui était une autorisation du pacha. Beaucoup se lancent, beaucoup d'Européens, d'Occidentaux qui passent par l'Égypte font leurs propres fouilles et sans demander aucune autorisation à personne. Et c'est comme ça que l'Égypte a été pillée pendant des années et des années. Tout le monde se servait, on allait à Saqqara en particulier, où il y avait des milliers de tombes, on ouvrait, on prenait, on fermait, on laissait tout en plan et on massacrait tout, mais pourvu qu'on trouve quelques objets. C'était totalement anarchique, il n'y avait aucune réglementation.
Comment les Français sont perçus par les Égyptiens?
Il y a eu à l'époque, juste avant donc l'arrivée de Mariette, donc à l'époque où Champollion y va en 1828, c'est Mehemet Ali qui règne sur l'Égypte à cette époque-là et qui a ouvert le pays aux Occidentaux, qui a voulu moderniser l'Égypte et donc qui a énormément ouvert, fait appel à des ingénieurs, à des médecins, dans le but de moderniser son pays. Donc les Français font partie de cet ensemble d'Occidentaux qui... Et il y en a d'ailleurs qui sont installés, comme Lilian de Belfond, qui était un grand ingénieur. Donc les Français sont très bien vus en Égypte. Sauf que arrive au pouvoir un certain Abbas Pacha qui, lui, n'aime pas trop les Français. Mais bon, il ne va pas rester très longtemps au pouvoir. Et ensuite, il y aura Saïd Pacha qui, lui, va complètement soutenir les Français et en particulier Ferdinand de Lesseps dans son projet d'ouverture du canal de Suez.
Alors, Mariette s'engage vers Saqqara. Vous avez une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est un véritable coup de dé pour lui. Qu'est-ce que vous entendez par là?
C'est un qui tout double. D'abord, il n'a pas l'autorisation du Louvre pour entreprendre ses fouilles. Il a un budget, mais qui était réservé à l'achat de manuscrits coptes. Il a deux solutions. Soit il rentre en France, bredouille, ce qui n'est pas très glorieux. Soit il prend la liberté de dépenser l'argent qu'on lui a donné pour faire des fouilles. Et s'il trouve, tant mieux. Mais est-ce qu'il aura la chance de trouver? Voilà. Donc, oui, c'est vraiment un coup de dé incroyable de la part de Mariette. C'est pour qui tout double, quoi. Où il aboutit, où il se plante et il retourne en France et on risque de ne plus vouloir entendre parler de lui au Louvre.
Alors, il s'installe près de l'endroit supposé, au départ en tous les cas. Et comment se passe cette installation? Comment se déroule finalement la journée type de Mariette à cette époque?
C'est tout simple, c'est des conditions de vie extrêmement spartiates. Il vit sous la tente, au milieu des sables, dans des conditions de vie très précaires. Et donc, il a réussi à constituer une équipe d'ouvriers et pour commencer à fouiller, parce qu'il faut s'imaginer quand même que le désert de Saqqara est immense, hein, qu'il a une vague idée de l'endroit où peut se trouver le Sérapéum et que il faut bien commencer par fouiller quelque part, donc c'est un peu au hasard. Comme c'est un homme qui est très physique, c'est quelqu'un qui se dépense énormément. D'ailleurs, c'est un colosse, Mariette. C'est une force de la nature. Et c'est ce qu'il aime aussi. Il a toute sa vie, il aimera être avant tout sur le terrain. Et donc, il se dépense puis en plus, là, il est jeune, il a 29 ans. Donc, il se dépense d'une façon, avec une énergie incroyable, parce qu'il se dit qu'il n'a pas beaucoup d'argent, qu'il n'a pas beaucoup de temps, donc, mais qu'il faut aller vite. Et donc, il entraîne ses équipes à travailler d'une façon extrêmement dure. D'ailleurs, il est très généreux avec eux, il leur donne des à longueur de journée pour faire accélérer le travail. Et la chance absolument qu'il a, parce que là aussi, on dira plus tard qu'en fait Mariette a eu toujours le coup de pioche divinatoire, c'est-à-dire qu'au bout du deuxième jour, il tombe sur un sphinx. Et là, c'est quand même assez exceptionnel. Quoi.
Et alors, il tombe sur un sphinx et au bout de plusieurs mois, ce n'est pas un sphinx qu'il a devant lui, c'est 140 sphinx.
Oui, absolument. Oui, 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 mais il a trouvé le premier, parce qu'il fallait trouver le premier. Quand même.
Ouais.
Et au bout du deuxième jour. Donc là, c'est... On se dit quand même, on peut dire qu'il y a un facteur chance, mais aussi il y a quand même une destinée. La vie de Mariette, c'est un destin. C'est avant tout, quoi. C'est pas seulement l'envie d'un homme de réaliser un rêve. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est prédestiné, c'était écrit pour lui. Enfin, je veux dire que c'était sa trajectoire et qu'il n'y avait pas d'autre.
Il trouve naturellement énormément d'objets et rapidement même, il trouve le fameux script accroupi.
Oui, tout à fait, oui, qui est une splendeur et qui est au musée du Caire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain nombre de mois, donc il n'a plus d'argent, mais il a quand même commencé à découvrir les sphinx. Donc il fait parvenir une lettre en France pour expliquer maintenant où il en est et qu'il lui faut de l'argent pour continuer. Donc il est suffisamment avancé dans sa fouille pour être crédible auprès des savants français, auprès de l'État français, pour qu'on lui redonne des subventions pour continuer. Et en fait, ça va durer 4 ans. Et pendant 4 ans, donc, il va mettre au jour une quantité hallucinante d'objets, de toutes les époques d'ailleurs. Ça va de la troisième dynastie jusqu'à l'époque romaine. Et il va envoyer en France à peu près 7000 objets.
Alors, il y a tout un manège, et j'utilise l'expression à dessein, qui consiste à finalement cacher des objets dans des objets pour pouvoir en exporter le plus possible.
Oui, parce que là, il a pas d'autorisation. Alors, quand il commence, en fait, ses fouilles, les Français, donc, qui sont au Caire, qui travaillent pour le gouvernement français, disent maintenant il faut demander un firmament à Abbas Pacha parce qu'il faut une autorisation quand même. Donc il obtient ce firmament et puis après Abbas, donc il n'a aucune sympathie pour les Français, commence à lui mettre des bâtons dans les roues en lui disant mais attendez, mais ces objets ils restent en Égypte. Et en fait, c'est pas du tout le projet de Mariette à l'époque. Lui qui après a fait promulguer des lois pour que plus aucun objet sorte d'Égypte, à ce moment-là, lui ne s'inquiète que d'une chose, c'est du nombre d'objets qu'il va pouvoir faire parvenir en France. Et donc, pour ça, il use de stratagèmes absolument incroyables. Il fait des faux, pour en donner donc, pour en laisser aux Égyptiens, à Abbas Pacha, et pour faire partir la nuit sur des ânes qui vont jusqu'à Alexandrie, sur lesquels il y a un bateau qui attend et qui va emmener tous les objets à Marseille et ensuite au Louvre. Tout ça dans la plus grande clandestinité. Et il passe des jours et des nuits à faire des faux et à remplir des caisses et à cacher des objets pour pouvoir les dissimuler aux yeux des Égyptiens. Des inspecteurs qui viennent aussi sur les sites.
Il a un culot extraordinaire et en même temps, il est très malin.
Absolument. Ah oui, absolument. Il est très... Puis c'est aussi ce qui le rend extrêmement sympathique. On a l'impression que c'est un gosse par moment qui veut jouer un tour à son copain. Parce que bon, c'est quelqu'un qui a un côté très chaleureux et très humain et très... Comment dire très... Il est très content de pouvoir jouer ce tour-là aux Égyptiens. Et ça l'amuse beaucoup.
Mais vous le montrez aussi très diplomate.
Oui.
Mais il sait négocier quand il faut négocier.
Oui, mais pas toujours quand même. Plus tard, il n'aura pas toujours l'habileté justement de bien négocier et ça lui retombera sur les épaules. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, enfin, ce qui surprend aussi beaucoup parfois, et ça je l'ai entendu en Égypte de certaines personnes, de certains égyptologues égyptiens qui prétendent que Mariette a pillé l'Égypte et qu'il n'aurait jamais eu le droit d'avoir des funérailles nationales en Égypte comme il les a eues. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, il faut replacer ça dans le contexte de l'époque, tous les objets qui étaient mis au jour, qui allait dans les réserves de Abbas Pacha, finissait en cadeau à tous les invités de marque qui passaient par l'Égypte. Donc c'était des objets qui étaient de toute façon qui perdus ou des objets qu'on laissait moisir dans des réserves et dont personne ne s'occupait. Il n'y avait aucun intérêt à l'époque des Égyptiens pour leur patrimoine. Donc, les objets, et c'est ce que savait Mariette, et savait que d'au moins ces 7000 objets qu'il avait rapatriés au Louvre, au moins ces 7000 objets allaient pouvoir continuer à vivre, on allait pouvoir les restaurer, en prendre soin, et qu'ils allaient trouver une place et qu'elle n'allait pas disparaître dans la nature.
Alors, quel jour va-t-il découvrir ce fameux Sérapéum ? C'est ce que je vous propose de voir Claudine Le Tourneur, disons, dans un instant. Nous nous retrouvons.
Un événement.
Une association.
Une œuvre.
Une fondation.
Tout ce qui mérite votre attention est dans Point de Mire.
En direct ou en médiathèque.
Sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de notre émission en habit vert consacrée à Mariette Pacha de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Mariette Pacha qui est née en 1821, donc le grand égyptologue. Et je reçois Claudine Le Tourneur, disons, auteur d'une biographie sur le personnage, une biographie parue chez Plon. Alors, nous arrivons enfin au fameux jour où il découvre le Sérapéum, donc il continue sur le Dromos et finalement le Dromos, donc cette fameuse allée avec ses 140, ses 141 sphinx, et il trouve enfin l'entrée du Sérapéum. Pour lui, c'est un aboutissement.
Ah oui, on imagine forcément le bonheur de cet homme, la joie, la... Enfin,
ça fait un an qu'il y travaille.
Ça fait un an. Et au bout d'un an de labeur exténuant, je veux dire, il n'a pas arrêté pendant un an à retourner les sables et à se heurter à des... Parce que le Dromos, en fait, qui est d'une allée qui normalement devait être rectiligne, il s'aperçoit à un moment donné qu'elle bifurque. Ouais. Et ça, c'était tout à fait inattendu. Enfin bref, il a plein de soucis comme ça. Et puis finalement, enfin, il arrive à l'ouverture de cette fameuse tombe qui est donc souterraine et qui était très, très impressionnante parce qu'elle est immense. Il y a des sarcophages donc du dieu Apis, donc qui était un taureau. Et qui était en même temps une divinité. Et donc, il faut imaginer... On peut comparer aussi à l'ouverture de la tombe de Toutankhamon par Carter. C'est-à-dire le choc de ces hommes. Carter, il a lutté pendant des années avant de pouvoir accéder contre vents et marées, alors qu'on lui prétendait que cette tombe n'existait pas. Il a fini par la trouver. Et Mariette, bon, a pas lutté des années, il a lutté un an. Mais
quels sont ces obstacles ? Il y a des problèmes d'argent, vous les avez évoqués tout à l'heure.
Il a des problèmes d'argent.
Il a des problèmes physiques.
Oui, parce qu'il attrape une ophtalmie qui va le perturber tout le restant de sa vie. C'est-à-dire, il a du diabète. Et puis alors, il y a eu les vents de sable, le fameux Hansim, qui pendant plusieurs jours a complètement perturbé les fouilles. Et puis, il y a aussi tous les gens autour de lui, enfin, tous les fouilleurs, à la fois égyptiens et étrangers, enfin, les fouilleurs entre guillemets, enfin, plutôt les pilleurs de tombes, qui voient en lui un perturbateur, parce que d'abord, il fait ça lui officiellement, et donc, c'est assez mal vu. Et d'autre part, ils se disent, mais il est en train de nous prendre le pain de la bouche, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Et donc, on essaye là aussi de lui mettre des bâtons dans les roues, de le prendre à des pièges. Il vit dans un univers quand même assez compliqué.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il découvre le Sérapéum la nuit, tard dans la nuit, et les jours suivants, en fait, non pas les jours suivants, mais les nuits suivantes, il va travailler. Il veut travailler la nuit pour ne pas être dérangé par ces fameux pierres, pour cacher en quelque sorte sa découverte.
Ah oui, parce que bien sûr, si cette découverte est révélée, il va avoir toute l'Égypte qui va lui tomber dessus. Enfin, je veux dire, tout le monde qui va venir voir, qui va vouloir absolument... Et je fais encore une fois le parallèle avec ce qui s'est passé avec Carter, le jour où l'annonce de la découverte de la tombe de Toutankhamon a traversé la planète. La Terre entière venait dans la Vallée des Rois et le perturbait complètement dans son travail. Donc Mariette ne veut pas que ça s'ébruite, pour diverses raisons, pas seulement aussi à cause des pillards, mais... il veut pas qu'Abbas Pacha et que les Égyptiens découvrent ce qu'il vient de mettre au jour, parce qu'il va y avoir des objets, parce qu'il va y avoir... voilà, et il veut garder tout ça le plus secret possible et le plus longtemps possible.
Alors, finalement, il ne peut pas le tenir secret. Il sera dérangé. Vous décrivez cette cohorte de visiteurs qui veulent découvrir le Sérapéum. Et finalement, ce sont des... Enfin, il y a beaucoup de profiteurs et beaucoup de sans-gêne dans ces personnes. En revanche, il y a un personnage qui est un personnage très important, c'est Heinrich Brücks, qui va devenir un de ses meilleurs amis.
Ah oui, ça c'est une très belle histoire d'amitié entre Heinrich Brücks, qu'on dit en allemand, et Mariette. Heinrich Brücks est un peu plus jeune, à 5-6 ans de moins que Mariette. Et ces deux hommes vont se lier d'une amitié absolument indéfectible. Ils vont se retrouver après dans des situations très similaires une fois qu'ils seront rentrés chacun dans leur pays. Après, ils vont se retrouver de nouveau en Égypte. Et c'est vraiment une très, très, très belle histoire entre ces deux hommes. Vraiment magnifique et très forte, jusqu'à la fin de leur vie.
Alors, s'il y a des visiteurs, naturellement, c'est parce qu'il devient très connu. Il a, en cette période d'élection, on appellerait ça une cote de popularité. Cette cote de popularité, si je puis dire, ne se limite absolument pas à un cercle restreint d'universitaires, mais vraiment, au tout Paris, on admire ce jeune homme, parce qu'il n'a pas 35 ans, qui découvre et qui apporte énormément à l'Égypte.
Et à la France.
Et à la France.
D'abord, surtout à ce moment-là. Et c'est vrai que quand il revient, donc en 1854, donc 4 ans après avoir quitté la France...
Il est bien obligé de revenir ?
Bah oui, il est obligé parce qu'il faut qu'il... d'abord... Il a vidé les tombes et le Sérapéum et pris tout ce qu'il avait à prendre. Et puis, à un moment donné, il faut bien aussi qu'il fasse son rapport de fouille, comme tout bon fouilleur, parce que c'est bien beau de trouver 7000 objets, mais en même temps, après, il faut les décrire, il faut les répertorier. Et donc, tout ça est un travail qu'il ne peut faire qu'au Louvre, puisque maintenant, tous les objets sont au Louvre. Et donc, il revient et effectivement, il s'aperçoit qu'il est devenu un héros, en quelque sorte. Tout le monde l'acclame, comme vous le disiez, pas seulement le milieu scientifique ni le Louvre, mais effectivement, tous ceux qui peuvent être au courant de ce qui vient d'arriver au Louvre, cette collection extraordinaire, Mariette est vraiment un héros. Malheureusement, ça va pas durer.
Alors, je reviens tout de même sur l'homme privé. Sa femme ne va pas l'attendre en France. Elle décide de se rendre en Égypte. Et pour lui, ça va être une véritable oasis.
Absolument, parce qu'au bout de 2 ans, effectivement, Éléonore, qui commence à désespérer, à qui il envoyait des grandes lettres, mais où elle sentait pas du tout qu'il y avait un espoir de retour, décide, sans le consulter, de prendre ses enfants sous le bras et de prendre le bateau et de venir en Égypte. Et puis, elle arrive effectivement tout à fait... il apprend son arrivée quand elle est déjà sur place. Pour lui, c'est un grand, grand choc. D'abord parce qu'il n'imaginait pas que sa femme puisse être capable de faire un tel voyage, d'entreprendre toute seule tel voyage. Et d'autre part, parce que c'est l'amour de sa vie. Et donc, qu'elle puisse arriver là pour le soutenir et vivre avec lui et les enfants dans la maison de Saqqara, il va passer les 2 dernières années dans un grand bonheur.
Alors donc, il repart en France, mais il attend qu'une chose. Alors, on l'a répété pendant cette émission, ce n'est pas un homme de bureau, il préfère être sur le terrain et il ne souhaite qu'une chose, c'est revenir en Égypte. Et c'est le duc de Luynes qui lui permet de retourner en Égypte et pour une mission très importante puisqu'il est chargé de désensabler le sphinx.
Non, alors ça se passe, en fait, non, c'est dans le livre, effectivement, je le passe peut-être un peu après, mais ça se passe au moment où il est déjà à Saqqara. Et en fait, cette mission tombe en 1853 et il désensable le sphinx effectivement pour le duc de Luynes, mais c'est pendant les 4 premières années. Et il est très heureux de pouvoir le faire dans la mesure où ça le change un peu de Saqqara qu'il fait une très belle fouille. Et le sphinx qui n'a pas été désensablé depuis des lustres aussi, donc depuis très longtemps. Et par contre, ce qui va lui permettre de revenir en Égypte par la suite, c'est Ferdinand de Lesseps. Parce qu'en fait, comme je le disais, à la mort d'Abbas Pacha, son frère Saïd devient pacha d'Égypte. Et Saïd Pacha est un ami de Ferdinand de Lesseps. Et donc, Ferdinand de Lesseps et Mariette se croisent un jour. Et Lesseps sait parfaitement que Mariette veut revenir en Égypte, mais qu'il ne sait pas comment. Parce que normalement, maintenant, il est un savant, on lui donne un bureau au Louvre. Et il n'y a aucune perspective et aucune opportunité pour lui de pouvoir repartir. Et c'est Ferdinand de Lesseps qui monte, qui fait toute une, enfin, qui manigance avec Saïd Pacha et le prince Napoléon pour organiser un voyage du prince là-bas où Mariette serait le guide du prince et récolterait des objets. Enfin bref, il y a toute une mise en place d'un stratagème très fin qui fait qu'effectivement Mariette revient en Égypte en 1858. Et arrive à convaincre finalement Saïd Pacha, après bien des tergiversations dans tous les sens, qu'il faut préserver les monuments d'Égypte, ouvrir un musée.
Il y a une transformation chez lui. Il ne s'agit plus de piller, mais de sauver
voilà.
Et de préserver.
Absolument. Et en fait, c'est intéressant dans son parcours, c'est que... Enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement intègre. Quand il est à Saqqara et qu'il fouille pour le Louvre avec les finances de la France, il estime que tout ce qu'il trouve revient à la France. À partir du jour où il est payé par l'Égypte, par Saïd Pacha, qui lui donne des financements pour créer ce fameux service des antiquités et pour créer un musée, parce qu'il n'y a pas de musée encore au Caire, ça n'existe pas. Donc il faut ouvrir un lieu où on va préserver les objets. Il faut préserver les monuments, il faut préserver les objets. Et préserver les monuments, il faut des lois, donc un service des antiquités, et pour préserver les objets, un lieu, donc un musée. Et à partir du jour où c'est l'Égypte qui paye, où c'est l'Égypte qui s'engage, Mariette travaille pour l'Égypte et deviendra plus égyptien que les Égyptiens. Et là, il n'admettra plus aucune faille, aucune défaillance à ce système-là, ce qui va lui attirer les foudres et les haines de tous ces corréligionnaires étrangers, allemands, anglais, italiens, qui ne comprennent absolument pas sa position.
Alors, il obtient un titre que l'on va signaler, c'est celui de Mamour. Mamour étant directeur.
Mamour, c'est directeur du... Alors, c'est directeur du service des antiquités. Et puis, on lui donne tout de suite le titre de Bey, qui est un titre honorifique, avant de lui donner à la fin de sa vie le titre de Pacha, qui est un titre absolument... qui n'est jamais destiné à un non-musulman et à un non-égyptien. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Et ça prouve la reconnaissance de l'Égypte à Mariette.
C'est un homme de société, je veux dire par là qu'il connaît, bien évidemment, du fait de ses découvertes, il connaît énormément de monde. Vous le présentez chez Frédéric Guillaume, hein, c'est bien cela.
Ouais.
Il rencontre énormément de monde. Il devait être avec le prince Napoléon. Il connaît la terre entière.
Oui, et parce que aussi, il reçoit, après, une fois qu'il est installé en Égypte, il reçoit énormément de monde, parce que c'est un peu le début du tourisme, si on veut. Et puis, il y a aussi l'inauguration du canal de Suez, hein, donc où là, l'impératrice Eugénie vient représenter son mari qui est absent, et il va là aussi être son guide. Enfin, c'est vrai qu'il a... Il a côtoyé tous les grands de ce monde pendant toutes ces années en Égypte. Mais c'est pas pour ça que finalement ça l'a beaucoup aidé. Ça lui a attiré peut-être plus de problèmes qu'autre chose.
Alors, Claudine Le Tourneur, disons, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être deux questions. Je citais tout à l'heure la phrase de Michelet en début d'émission. Les deux autres citations en exergue de votre livre évoquent, elles, la douleur et la malédiction. Car nous avons évoqué pour l'instant le bon côté. Mais si les auditeurs se procurent votre livre, eh bien, ils pourront voir qu'il va vivre beaucoup de malheurs, notamment dans sa famille, puisqu'elle va perdre son épouse, plusieurs de ses enfants. Mais malgré tout, à vous lire, dans la plus grande part de son existence, on sent un homme profondément heureux, un homme très attachant, qui nage dans le bonheur parce qu'il fait tout simplement ce qu'il aime. Et même dans la douleur des derniers jours, il sait à chaque fois retrouver la flamme. Et plus loin, je crois, vous utilisez le terme d'homme lumineux. C'était vraiment cet homme lumineux, cet homme qui rayonnait.
Mais en tout cas, c'est ce que tous ceux qui l'ont connu et tous les écrits que j'ai pu lire sur lui révèlent la même chose. C'est vrai que c'était et on l'imagine assez bien d'ailleurs, parce que comment se lancer dans une telle aventure, vouloir sauver les monuments d'Égypte, vouloir créer un musée, si on n'a pas un certain charisme, une manière d'attirer à soi les gens qui peuvent vous aider. Parce que, par exemple, quand il rencontre Saïd Pacha, pour lui présenter ce désir de créer un service d'antiquité pour essayer de le convaincre qu'il faut défendre et restaurer et protéger les monuments, alors que Saïd Pacha n'en a strictement rien à faire, il faut vraiment un homme qui sache parler, un homme qui ait un ressort et une lumière et une luminosité et encore une fois donc un charisme tout simplement pour pouvoir arriver à ses fins.
Je me permets de vous citer, il a traversé la vie dans un tourbillon de liberté et de contraintes, d'audace et de contrariété, une vie qui fut l'exact reflet de sa nature enthousiaste, de son âme généreuse, de son esprit limpide. Une vie, alors c'est le côté sombre, une vie drapée d'ombre et de lumière, entrecoupée de tempêtes et d'orages. Il n'eut jamais de répit dans cette existence qui lui a souvent tenu lieu de bagne. Alors naturellement, vous évoquez là toute la fin de son existence. Heinrich Bruch, que nous évoquions tout à l'heure, disait de lui que c'était un artiste. C'est sa meilleure définition par rapport à l'image que l'on peut avoir de l'égyptologue qui, pour beaucoup, se réduirait au fait d'être un rat de bibliothèque dans ses piles de livres.
Eh bien, lui, il était tout sauf ça. Donc, lui, il a été sur le terrain. Lui, il a été... il avait un amour fou des monuments. Il avait un amour... La façon dont il a aménagé son musée à Boulak... on a l'impression que c'est une femme qui aménage son appartement pour y recevoir son amour, quoi. Lui, il aménage ce musée pour y mettre ses œuvres. Et c'est vrai qu'il a un comportement d'homme passionné, effectivement, avec ce tempérament effectivement artiste, beaucoup plus que fonctionnaire et rat de bibliothèque, quand on le voit dans la façon dont il se comporte avec les œuvres et avec les temples, et c'est toujours un débordement d'enthousiasme, de passion et d'amour. Mariette, c'est ça, oui. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce personnage est aussi attachant. Et moi, encore une fois, j'ai eu un immense bonheur à le découvrir et à écrire ce livre.
Eh bien, Claudine Le Tourneur, disons merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Je renvoie à nos auditeurs à votre livre, Mariette Pacha, ou Le rêve égyptien, avec une préface de Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions des belles lettres. Un livre paru chez Plon. Je renvoie aussi nos auditeurs au livre Des dieux, des tombeaux, un savant en Égypte sur les pas de Mariette Pacha chez Somogy, édition d'art, ainsi que au site internet de la ville de Boulogne-sur-Mer qui consacre encore toute une partie de son site donc à la vie de Mariette Pacha. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel Habit Vert.